Je vais vous parler aujourd'hui de Nicolas Cabasillas dans son temps. C'est quelque chose que j'ai présenté au colloque de Beauzée en septembre dernier. Mais comme depuis ce colloque de Beauzée, j'ai beaucoup travaillé sur la biographie de Nicolas Cabasillas, et en particulier au cours d'un séminaire que je fais à l'École pratique des hautes études, à force de travailler sur les sources et sur le sujet, je peux dire que ce que j'avais fait à Beauzée, bon, c'était bien, je ne vais pas dire que c'était mauvais, mais sur beaucoup de points, c'était un petit peu flou et... Bon, j'apporterai quelques petits compléments. Alors, l'œuvre théologique de Nicolas Cabasillas va être au cœur de cette rencontre, comme elle l'était déjà à Beauzée. Donc, moi, je ne parlerai pas du tout du théologien Nicolas Cabasillas, mais de l'homme, du byzantin Nicolas Cabasillas, que, à mon avis, il faut absolument replacer dans son époque. C'est-à-dire le XIVe siècle byzantin. En effet, quel que soit l'épisode qu'on étudie dans ce XIVe siècle byzantin, de toute façon, à tous les coins de rue, on rencontre Nicolas Cabasillas. Quelques petits exemples. Si on étudie la Renaissance humaniste sous les paléologues, eh bien, parmi les humanistes, les personnes qui se sont intéressées à la littérature, au renouveau des auteurs anciens, etc., on trouve Nicolas Cabasillas, qui non seulement est lui-même un humaniste, au sens humaniste de la Renaissance, mais aussi quelqu'un qui a défendu, bec et ongle, si j'ose dire, l'importance de la culture profane pour la perfection du chrétien. Bon, si on s'intéresse à l'histoire politique... à la guerre civile, par exemple, entre Jean VI Cantacuzène et Jean V Paléologue, eh bien, on trouve Nicolas Cabasillas, qui était un des conseillers principaux de Jean VI pendant son règne. Bon. Si on s'intéresse aux controverses religieuses de l'époque, eh bien, aux côtés Grégoire Palamas, quand il va à Thessalonique, qu'il ne peut pas entrer et qu'il va au mont Athos, par qui est-il accompagné? Par Nicolas Cabasillas. Bon, si on s'intéresse à l'histoire sociale et économique, bon, c'est très à la mode en ce moment, il y a un sujet d'agrégation qui est l'économie et la société à Byzance, pas à cette époque-là, mais un petit peu avant, eh bien, on voit Nicolas Cabasillas jouer un rôle dans la révolte des Zélotes à Thessalonique. Et on le voit aussi écrire énormément contre l'usure, prendre la défense des pauvres, etc. Bon, et si on s'intéresse au droit byzantin, il y a des gens qui s'intéressent au droit, eh bien, il a écrit des traités contre les abus des autorités pour le respect des lois, etc. Bon, bref, même sans aborder du tout l'œuvre religieuse de Nicolas Cabasillas, il y a déjà de quoi faire avec simplement sa vie quotidienne. Alors, je vais d'abord planter le décor. C'est Thessalonique au XIVe siècle. Il est natif de Thessalonique, la seconde ville de l'Empire, et qui est Thessalonique, c'est vraiment un bon miroir de la civilisation byzantine à cette époque. C'est une ville qui a une activité économique importante, une activité commerciale avec son port, il y a des Vénitiens qui viennent commercer, un arrière-pays agricole qui serait prospère si il n'y avait pas tout le temps des guerres. Bref, c'est un centre économique important. C'est un centre intellectuel très important aussi. Beaucoup d'acteurs de la Renaissance humaniste, comme Dimitrios Triclinios, le juriste Mathieu Blastaris, Thomas Magistros, etc., sont des gens de Thessalonique, et Nicolas Cabasillas lui-même fait un éloge de Thessalonique où il nous dit que tous les Byzantins viennent faire leurs études à Thessalonique. Bon, juste encore un petit détail là-dessus, c'est que c'est à Thessalonique que Barlaam le Calabré a donné ses cours de philosophie quand il avait dû quitter Constantinople. Bon, tout le monde va faire ses études à Thessalonique. On se demande d'ailleurs, c'est une des questions qu'on se pose dans notre séminaire, pourquoi Nicolas Cabasilas a quitté Thessalonique pour aller faire ses études à Constantinople. Là, il y a un petit mystère, mais vous verrez, c'est plein de mystères. Sa vie, on bute sans arrêt sur des « mais pourquoi ?». Bon, c'est aussi à Thessalonique que les moines de Latos viennent se réfugier quand des pirates... des pirates turcs en général, viennent semer la panique dans les ermitages et les monastères de Latos. C'est à Thessalonique que Grégoire Palamas va rencontrer des disciples de Grégoire le Sinaïte, en particulier Callistos, futur patriarche, et Isidore Boukiras, un personnage très important, controversé mais vraiment important, futur patriarche lui aussi. Et cet Isidore va rester à Thessalonique pendant un moment et il va y fonder, d'ailleurs il était lui-même de Thessalonique, pour ça qu'ensuite il y reste, il fonde des cercles spirituels et il y a de fortes chances pour que Nicolas Cabasilas ait fréquenté ces cercles spirituels d'Isidore. Bon, et Thessalonique est un enjeu dans les guerres, guerres étrangères avec les Serbes, les Turcs, les Latins, guerres civiles aussi, la guerre entre Jean V et Jean VI, la guerre des deux Jean. Thessalonique est un enjeu important. Et enfin, dans ce contexte de la guerre des deux Jean, Thessalonique a été le siège d'une confrontation violente entre deux factions, dont l'une était représentée par l'aristocratie et les riches propriétaires agricoles, et l'autre s'appuyait sur le petit peuple misérable, des dockers, des artisans, etc., qu'on appelait les zélotes. De nos jours, on dirait les activistes. C'est une traduction assez précise du mot zélote. Bon, et pendant 8 ans, Thessalonique, de 1342 à 1350, va être le théâtre de plusieurs épisodes sanglants pendant cette révolution des Zélotes. Et Nicolas Cabasilas joue un rôle dans cet épisode et il est resté à Thessalonique pendant beaucoup d'années. Enfin, il est à Thessalonique pendant que ça se passe. Alors, sa jeunesse, si on adopte comme date de naissance les années 1320-1322, toute sa jeunesse se déroule dans ce contexte. Il appartient à une illustre famille de Thessalonique, des Cabasilas, il y en a des quantités, mais c'est du côté de sa mère. Sa mère est une Cabasilas, sa mère est la sœur de Nil Cabasilas, qui sera métropolite de Thessalonique, et il porte le nom de Cabasilas, très probablement parce que c'est un nom illustre. Son père, lui, s'appelle Kamaetos, qui est un nom d'abord à consonance un peu étrangère, on se demande s'il ne venait pas de l'Épire. En grec, ça veut dire un aigle nain. Bon, ça n'est pas extraordinaire, c'est sûrement un sobriquet qui remonte peut-être à quelques générations. Et ce Kamaetos est tellement peu illustre que dans le lexique prosopographique de l'époque des paléologues, comme Kamaetos, on a Nicolas Cabasilas Kamaetos, et puis un autre Kamaetos, un Jean Kamaetos, qui pourrait très bien être son père, d'après les dates. Il est à Thessalonique et il a financé une reconstruction d'une porte des remparts de Thessalonique à la demande de Anne de Savoie, Anna Paléologina. C'est peut-être son père, mais on n'en a aucune preuve. Bon. Alors, donc, son père a joué un rôle important pour Nicolas Cabasilas, bien qu'il ne soit pas dans les sources, il ne soit pas connu. Il est connu essentiellement par les lettres de Nicolas. Et on devine vraiment une très grande proximité entre Nicolas et son père. Hein, dans ses lettres, on sent vraiment cette proximité très forte. Donc, son père a joué un rôle. Son oncle, Nil, a joué aussi un grand rôle. Bon, Nil Cabasilas, qui est connu surtout pour un traité contre le filioque, que Nicolas Cabasilas avait d'ailleurs préfacé. Nil, qui était professeur de grammaire avant de se faire moine et avant de devenir métropolite de Thessalonique. Et donc, c'est auprès de Nil que Nicolas a fait ses premières classes avant d'aller à Constantinople et, dit-il, poursuivre son oncle. Donc là, il y a un petit problème aussi sur la carrière de Nil. À un moment, Nil quitte Thessalonique et va faire des cours plutôt à Constantinople. On ne sait pas pourquoi. Et Nicolas le suit. Et puis, alors donc, Isidore Boukiras, dont Nicolas a suivi les cercles spirituels. Et c'est à Isidore qu'il va devoir, très probablement, en partie, sa conception d'une vie spirituelle qui n'est pas réservée aux moines, mais qui s'adresse aussi aux laïcs. Hein. Et ça, c'était un héritage de Grégoire le Sinaïte, qui était le père spirituel de Isidore. Bon. Et un autre homme a joué un grand rôle dans sa formation spirituelle, c'est Dorothée Vlatis, qui, avec son frère Marc, sera le fondateur du monastère qu'on appelle maintenant le monastère de Vlatadon à Thessalonique, hein, donc le monastère où il y a l'Institut patriarcal des études patristiques. Vlatadon, tout simplement, c'est veut dire le monastère des frères Vlatès. Donc Dorothée Vlatès, qui était un père spirituel important à Thessalonique, pour les moines et pour les laïcs, et Nicolas en parle dans une de ses lettres, puisqu'il dit à son père, « Mes amis ne m'écrivent pas, ils se plaignent que je n'écrive pas, mais eux ne m'écrivent pas non plus », et il leur fait plein de reproches, et il dit, « Bon, le seul qui soit innocent de tout cela, c'est mon très cher père Vlatis. » Donc, c'était son père spirituel. Donc, Nicolas est donc à Constantinople, il fait ses études, grammaire, rhétorique, droit, astronomie, philosophie, absolument tout le passionne, et il est tellement enthousiaste qu'il néglige sa famille, puisque à un moment il écrit à son père, je suis désolé, j'ai cessé de t'écrire parce que j'étais captivé par les études, et il néglige aussi sa santé, puisqu'il raconte dans une de ses lettres aussi comment sa passion pour les livres d'astronomie, pour Ptolémée, lui a occasionné une telle migraine que les médecins ont dû lui interdire les études pendant quelque temps. Bon, et c'est un amour de la culture et des études qui le poursuivra toute sa vie, puisque dans ses œuvres, on trouve des réminiscences d'Aristote, d'Homère, de Platon. Alors, il y a un petit incident dans cette période de ses études. Nicolas participe à un concours d'éloquence qui a été organisé par le consul des philosophes, c'est-à-dire par celui qui organisait les études. Et il écrit un éloge de Saint Dimitrios pour ce concours. Et cet éloge est extrêmement critiqué parce que, et ça c'est pas une critique injuste, parce que moi j'ai lu cet éloge de Saint Dimitrios, et effectivement, dans cet éloge, Nicolas Cabasilas démontre que Saint Dimitrios, protecteur de Thessalonique, est supérieur à Saint Jean-Baptiste. Je me disais, c'est un peu gros, mais il le dit vraiment en toutes lettres dans l'éloge, et ce qui nous vaut une lettre pleine d'humour de son oncle Nil, qui fait état du scandale que ça a occasionné. Et dans sa lettre, Nil lui dit, « Écoute, j'ai mis au pas tous ceux qui te faisaient des reproches. Je leur ai dit que si tu démontrais la supériorité de Dimitrios, ils n'avaient qu'à se rendre à cette démonstration, et que si tu ne la démontrais pas, je ne voyais pas où était le problème. » Et d'ailleurs, dit-il, Saint Paul lui-même dit que le Christ a été pendant un temps inférieur aux anges. Donc on peut bien dire que Saint Jean-Baptiste a été inférieur à Dimitrios. Bref, c'est une petite lettre. C'est la seule lettre qu'on ait de Nil, et c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment très, très vivante. Alors là, on arrive à 1341. Nicolas a donc une vingtaine d'années. Et il est revenu à Thessalonique à la fin de ses études. Or, 1341... c'est une année extrêmement mouvementée à Byzance. Je crois que c'est vraiment l'année où il se passe le plus de choses à Byzance. Alors, pour mémoire, c'est l'année où Grégoire Palamas est convoqué devant le synode de Constantinople par le patriarche Jean Calicas à la suite d'une plainte du philosophe calabré Barlaam qui l'accuse de messalianisme. Alors, le messalianisme, c'est toujours à mettre avec des guillemets, de même que le bogomilisme avec des guillemets pour cette époque-là, parce que c'est un petit peu quand on trouve que des gens pensent à cette époque-là, quand on trouve que des gens ne sont pas très hétérodoxes, tout de suite, sauf si c'est des latins, mais tout de suite on dit ce sont des messaliens ou ce sont des bogomiles. Quand on étudie dans le détail ce qu'on leur reproche, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on entend par bogomilisme. Bon, donc, il est accusé de messalianisme, il va à Constantinople, il se fait accompagner par Isidore Boukiras et Dorothée Vlatis. Donc là, on retrouve encore deux personnages très proches de Cabasilas. Au synode, c'est Barlaam qui est condamné au lieu de Palamas, il s'enfuit. Grégoire Akindinos prend la relève pour lutter contre Grégoire Palamas. Grégoire Akindinos a fait ses études à Thessalonique. On retrouve toujours Thessalonique. À ce moment-là, l'empereur Andronique III, qui avait dirigé le synode, meurt. Et ça complique la situation parce qu'il y a très vite une guerre de succession entre son fils, Jean V, paléologue, donc il y a 9 ans, donc il ne peut pas devenir empereur tout de suite, et son ministre, Jean Cantacuzène, que Andronique III avait désigné comme tuteur de son fils Jean, et donc il y a une lutte entre, d'un côté, Anne de Savoie, ou Anna Paleologhina, comme vous voulez, qui est la mère de Jean V, qui est alliée au patriarche Jean Calécas, avec, pour compléter le trio, au point de vue politique, un certain Alexis Apokavkos. Donc ça, c'est le clan paléologue, et de l'autre côté, Jean Cantacuzène, qui se considère comme le régent désigné par Andronique III et qui finit par être expulsé, enfin non, ou plutôt il n'est pas expulsé de Constantinople, il quitte Constantinople parce qu'il doit faire la guerre, et pendant qu'il est absent de Constantinople, il est excommunié par le patriarche pour avoir voulu prendre le pouvoir. Bon, donc il se fait acclamer, je ne sais plus, l'excommunication a peut-être lieu juste après, mais enfin bref. Toujours est-il que Jean Cantacuzène se fait acclamer à Didymotique, une ville de la région, comme empereur Jean VI, et que l'Empire se divise entre les partisans paléologues et les partisans de Cantacuzène. Alors, à Thessalonique, les notables de la ville, de l'aristocratie foncière, dont fait partie Nicolas Cabasilas, prend parti pour Cantacuzène. Bon, une autre fraction de l'aristocratie qui s'appuie sur le peuple, le petit peuple et sur la classe moyenne de Thessalonique, prend parti pour les paléologues. Bon. Les tensions sociales donc s'ajoutent aux factions politiques, et en 1342, les aristocrates cantacuzénistes essaient de faire basculer la ville dans le camp cantacuzène. À ce moment-là, il y a une explosion de révolte qui se fait, des gens qu'on appelle les zélotes, dont on n'arrive pas exactement à savoir qui ils étaient, qui ils représentaient, où il y a des aristocrates, les chefs zélotes, hein, c'est le parti populaire, mais les chefs zélotes, ils s'appellent paléologues, ils s'appellent Apokavkos, ils s'appellent Métochites, ce sont des grandes familles byzantines. Donc, on a longtemps dit que c'était une lutte des classes, vraiment beaucoup de nuances à apporter. Bon, enfin, bref. Explosion sociale, les zélotes prennent le pouvoir, ils sont soutenus par Constantinople, puisqu'à Constantinople, ce sont c'est le clan paléologue, et donc des notables sont expulsés, leurs maisons saccagées, etc., et les zélotes tiendront la ville pendant 8 ans. Et pendant la plus grande partie de ce temps-là, Nicolas Cabasilas est à Thessalonique, il a vécu toute cette période. Alors, en 1345, donc en plein milieu de la période, les cantacuzénistes vont essayer de reprendre l'avantage. Ce sont les paléologues, les paléologiens, les paléologistes qui sont au pouvoir. Les cantacuzénistes essaient de reprendre l'avantage, et ils vont envoyer 2 ambassadeurs à Véroïa, qui est une ville proche, où se trouve le fils de Cantacuzène. Ils vont aller envoyer 2 ambassadeurs pour négocier la reddition de la ville à Cantacuzène. Et ces 2 ambassadeurs, c'est un certain Pharmakis et un certain Nicolas Cabasilas, qui est le nôtre. Donc, ils jouent vraiment un rôle de premier plan. Alors, donc, ils vont à Véroïa, et donc Nicolas Cabasilas est clairement un partisan de Cantacuzène. C'est une mission très délicate, très risquée. Ils en reviennent avec des propositions très intéressantes, dont une amnistie, qui aurait pu arranger les choses. Mais dès le retour de l'ambassade, il y a un nouveau renversement de situation. Il y a des émeutes sanglantes qui durent pendant 3 jours. Beaucoup de partisans de Cantacuzène sont massacrés, dont Pharmakis. Pharmakis, celui qui avait accompagné le 2e ambassadeur, le compagnon de Cabasilas. Non seulement il est massacré, mais on va le chercher chez son beau-frère où il est caché. On va le chercher là où il est caché, on le fait sortir et on le lynche. Bon, et Nicolas Cabasilas, lui, il échappe. Alors ça, c'est j'essaie de savoir pourquoi. On a dit, c'est parce qu'il avait pris parti pour les pauvres. Moi, je veux bien, mais les zélotes, c'est pas uniquement les pauvres. On a vu que c'est aussi des aristocrates. Donc c'est, à mon avis, pas suffisant. Il y a une autre explication, très simple, qui est donnée par Dimitrios Kidonis. C'est un miracle. Voilà, il a échappé par miracle. Bon. Moi, je veux bien, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, savoir les circonstances du miracle. Pour le moment, je suis à la recherche des sources qui nous expliquent. Alors, peut-être tout simplement qu'il s'était bien caché, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il échappe. Bon, il échappe pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il échappe, mais il reste à Thessalonique. Il reste à Thessalonique alors qu'il est compromis dans le camp des cantacuzénistes. Et s'il reste à Thessalonique, c'est qu'il n'y a pas uniquement du hasard. C'est que s'il n'a pas été tué, il y a quand même sans doute une autre raison. Et moi, ce que je vois comme raison, c'est qu'il était déjà connu à cette époque-là pour être quelqu'un qui n'est pas polémique et qui essaie de faire le lien entre les différentes factions et qui est un médiateur, exactement. C'était un médiateur et il était déjà à 20-22 ans reconnu comme un médiateur. Alors, continuons. En 1347, Jean Cantacuzène finit par gagner la guerre. Il devient vraiment empereur à Constantinople. Il prend le pouvoir. Il prend comme conseiller Dimitrios Kidonis, qui est un Thessalonicien, qui est un ami d'enfance de Nicolas. Et Dimitrios appelle Nicolas et lui dit « Viens donc aider l'empereur. Il y a des choses à faire intéressantes. Et en plus, tu n'y perdras pas. Tu y gagneras la confiance de l'empereur. » Nicolas ne répond pas tout de suite. Et puisqu'on a plusieurs lettres de Kidonis disant « Mais alors, bon, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Pourquoi est-ce que tu restes à Thessalonique? Viens à Constantinople. » Bon, et Nicolas finit par arriver à Constantinople. Il devient un des conseillers principaux de Cantacuzène. Et il est tellement proche de Cantacuzène qu'à un moment, Cantacuzène va vouloir entrer au monastère. Parce que la vie politique, il en a vraiment par-dessus la tête. Il veut rentrer au monastère, il veut aller au mont Athos, à Vatopédie, et il veut y aller avec Dimitrios Kidonis et Nicolas Kavasilas. C'est-à-dire, c'est vraiment le petit groupe ce sont vraiment les deux intimes de l'empereur Jean VI. Bon, finalement, ça ne se passe pas parce que il a des responsabilités, il s'aperçoit qu'il est plus utile comme empereur que comme moine à Vatopédie, donc ça ne se passe pas. Alors Nicolas prend au sérieux ses responsabilités politiques. Et il les exerce sur trois fronts, si j'ose dire. Alors, premier front, Nicolas et les empereurs. Alors, Nicolas, c'est donc un partisan de Cantacuzène, il n'y a pas de problème. En 1353, Cantacuzène décide d'associer son fils Matthieu au trône, ce qui est grave parce que ça écarte définitivement Jean V. Donc, c'est très grave. Le patriarche Callistos refuse de couronner le fils de Cantacuzène. Dimitrios Kidonis est contre aussi. Ben, Nicolas, lui, il prononcera l'éloge de Matthieu Cantacuzène lors du couronnement. Donc, c'est vraiment, il est cantacuzéniste sans état d'âme. Mais il garde des liens avec l'autre camp, avec les paléologues. Il prononce, d'accord, l'éloge de Matthieu Cantacuzène, mais il prononce aussi à la même époque l'éloge de Anna, la mère de Jean V. Il y a un éloge très, très appuyé et qui semble très sincère. Ce n'est pas un éloge de circonstance, il n'avait rien à gagner à faire un éloge d'Anna. Donc, il le fait à la demande de son père. Et il le fait avec tout son art. Bon. Et même il continuera à avoir des liens très forts avec Anna Paléologina, puisqu'il lui adressera une supplique en faveur des débiteurs ruinés par la guerre civile. Après l'abdication de Jean VI, quand Jean V vient au pouvoir, Nicolas se retire de la vie politique, mais il adressera quand même au moins une lettre à Jean V, une lettre pleine d'admiration pour son action, etc. Donc il est cantacuzéniste, il n'est pas anti-paléologue. Il reste bien avec les deux côtés. Deuxième front, les querelles religieuses. Alors, la grande querelle qui s'entortille dans le débat politique à cette époque, c'est la querelle hésychaste. Alors, on a, en très gros, bon, je passe vite parce que je pense que vous connaissez, d'un côté, des moines groupés autour de Grégoire Palamas, qui défendent à la fois la méthode de prière hésychaste et le fondement théologique que Grégoire Palamas lui a trouvé pour la défendre contre Barlaam et contre ensuite Akindinos, etc. Et donc, d'un côté, les moines avec Palamas, de l'autre côté, des intellectuels, représentés par un philosophe, Barlaam, puis un moine, Akindinos, puis un savant, Grégoras. Bon. Et ces intellectuels, ils refusent soit la méthode de prière hésychaste, c'est le cas en particulier de Barlaam, soit le fondement théologique palamite de cette méthode, c'est-à-dire Akindinos et Grégoras, qui n'ont rien contre la méthode elle-même, mais contre ses soubassements théologiques. Bon. Et cet engagement des intellectuels s'explique, bon, comme ce sont surtout des intellectuels, s'explique peut-être aussi par le fait qu'une fraction du camp palamite s'oppose vigoureusement à ce que la culture profane ait quelque chose à voir avec le christianisme. Alors, Nicolas Cabasillas. Des historiens ont dit qu'il était palamite. Des historiens ont dit qu'il était anti-palamite. Bon, alors il faudrait savoir. Alors, en faveur d'un engagement palamite, on trouve tout d'abord ses relations étroites avec de nombreux personnages du camp palamite. Isidore Boukiras et Dorothée Vlatis, ce sont ceux qui l'ont formé dans sa jeunesse. Or, ce sont ceux qui accompagnent Palamas au synode de 1341. Et Isidore va devenir le premier patriarche franchement palamite. Et Dorothée Vlatis, c'est le confident de Grégoire Palamas. C'est à Dorothée que Palamas a confié les expériences mystiques qu'il avait faites au Mont Athos et qu'on retrouve dans l'éloge de Philothée Kokinos, qui était un ami d'enfance de Dorothée Vlatis, comme vous voyez, comme le monde est petit. Nicolas lui-même a connu Palamas. Je l'ai dit tout à l'heure. Il l'a accompagné au Mont Athos. Il a vécu un an au Mont Athos avec Palamas. Ensuite, bon ben, un an de compagnonnage au Mont Athos, ça crée forcément des liens. Bon, un petit peu plus tard, quand Grégoras écrit un traité qui déforme, donne une présentation tendancieuse d'une discussion qu'il a eue avec Palamas, Nicolas écrit un traité qu'il appelle « Contre les inepties de Grégoras ». Donc, il prend vraiment la défense de Palamas. Donc, effectivement, on pourrait le ranger du côté palamite. Seulement, de l'autre côté, on a son amitié avec des gens qui sont nettement dans le camp opposé, Dimitrios Kidonis. Jusqu'à leur mort, ils vont correspondre et avoir un échange de correspondance extrêmement affectueux. Bon. Deuxièmement, on trouve vraiment peu de notions de la théologie palamite. Je ne parle pas de l'hésychasme, là je parle de la théologie palamite, dans les œuvres de Nicolas. Aucune distinction des énergies et de l'essence, une insistance sur les sacrements plus que sur la prière. Et puis aussi, on trouve beaucoup de plaidoyers, enfin plusieurs plaidoyers ardents en faveur du rôle de la culture profane qu'il juge indispensable à tout chrétien soucieux de perfection. Un de ces plaidoyers, c'est dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis juste à son retour du Mont Athos, de l'année qu'il a passé au Mont Athos avec Palamas. Et il lui dit « On ne peut pas devenir vraiment parfait si on ne cultive pas la culture profane parce qu'autrement on laisse en friche un don de Dieu. » Et on peut peut-être soupçonner là un certain agacement, parce qu'il a dû rencontrer certainement au Mont Athos des moines qui lui ont expliqué que c'était absolument inutile, qu'il suffisait de lire les pères et que les autres auteurs étaient totalement inutiles. Un autre écrit plus tard, c'est « Contre ceux qui prétendent que la science profane est inutile ». Bon, là encore, on voit une certaine... il essaie quand même de défendre le camp humaniste. Donc, à quelques années de distance, il donne des coups de patte contre certains palamites quand il défend la culture profane et contre certains anti-palamites quand il parle des inepties de Grégoras. Bon, je passe sur une autre querelle dans laquelle il refuse de prendre parti, c'est la querelle entre Callistos et Philothée. Bon, j'en avais parlé à Rome dans un colloque sur le patriarcat de Constantinople, mais on sait, comme j'irais simplement, que quand l'homme de confiance de Callistos est accusé de bogomilisme, Nicolas Cabasillas le défend, donc il défend l'homme de confiance de Callistos, et... d'un autre côté, quand Philothée Kokinos redevient patriarche à la mort de Callistos, Nicolas envoie plusieurs lettres enthousiastes, dont une justement de félicitations à Jean V, parce qu'il dit que vraiment c'est une excellente nouvelle que Philothée Kokinos soit patriarche. Bon. Et en fait, Nicolas n'a rien d'un partisan. Il suit son chemin. Il se garde des extrêmes. Dans les questions politiques comme dans les questions religieuses, il échappe à toute tentative de l'enfermer dans un camp. Bon, Nicolas et la société civile, un dernier domaine, c'est le domaine social, puisqu'on a vu qu'il était médiateur dans la crise des zélotes et que, du coup, peut-être, c'est peut-être pour cela qu'il on voyait qu'il se faisait apprécier même de ses adversaires. Il a pris conscience, peut-être à la faveur de la crise zélote, des graves problèmes économiques et sociaux de son époque. Il a vu que les guerres avaient réduit beaucoup de gens à la misère. C'est pour cela qu'il adressera une supplique à Anne de Savoie, à la mère de Jean V, pour qu'elle remette en vigueur une loi d'Andronique III, son défunt époux, qui dispensait des intérêts les débiteurs ruinés par les guerres. Il va faire un traité extrêmement vigoureux contre les usuriers, contre l'usure, où il retrouve un petit peu le souffle des pères cappadociens contre l'usure. Il a écrit aussi, à une date qu'il faudrait bien préciser un jour, un traité sur contre les abus des autorités envers les biens sacrés, qui est contre les confiscations abusives. C'est un traité qui a posé beaucoup de problèmes aux byzantinistes parce qu'on l'a appelé très longtemps son traité contre les zélotes, jusqu'à ce qu'en 1957, Igor Shevchenko démontre que ça n'a rien à voir avec les zélotes. Et comme disait un historien byzantiniste il y a quelques années dans un article, les byzantinistes ne se sont pas encore remis de ce que Shevchenko leur avait pris, l'unique source qui nous donnait une idée du programme des zélotes. Bon, enfin bref, c'est quand même un sujet social. Il a écrit également un traité intitulé « Aux Athéniens sur l'autel de la miséricorde » et où il dénonce les abus du droit d'asile. Il dit c'est très bien le droit d'asile parce que ça permet à des innocents d'échapper à des injustices, mais énormément de gens en profitent pour, ça sert le plus souvent à soustraire des vrais criminels à la justice. Donc le droit et les questions sociales l'intéressaient. Bien, on arrive en 1354. Jean V entre à Constantinople, il écarte Jean VI du trône. Jean VI réalise enfin son vieux rêve de prendre l'habit monastique sous le nom de Joasaph. Et alors que Dimitrios Kidonis propose ses services à Jean V, d'ailleurs ça faisait plusieurs années qu'il se rapprochait de Jean V, Dimitrios Kidonis donc propose ses services à Jean V, Nicolas Kabasilas, lui tout simplement, il se retire de la vie publique. Bon, il est très jeune, il a quand même entre 32 et 34 ans selon la date de naissance. Il lui reste quand même 40 ans à vivre environ. Et c'est très difficile de savoir ce qu'il est devenu parce qu'il est tellement discret que d'arriver à retrouver ses traces, ça n'est pas évident. Mais on a quand même quelques lettres, heureusement, sa correspondance qui est un vrai trésor. On voit qu'il passe la plupart de son temps à Constantinople, où il mène une vie très simple et où il fréquente le petit monastère d'Exantopouloi. Alors, le monastère d'Exantopouloi, c'est une fraternité monastique fondée par Calliste et Ignace Exantopouloi, qui sont les auteurs d'une centurie reprise dans la Philokalie. Calliste sera, pendant quelques mois, parce qu'il meurt tout de suite, patriarche de Constantinople. Et on sait que Nicolas Kabasilas fréquentait ce monastère par un poème qui a été écrit par un moine de ce monastère en l'honneur de notre cher ami Nicolas Kabasilas. Et c'est dans ce monastère que sera copié le Parisinus grec 1213 qui comporte les œuvres complètes de Nicolas Kabasilas et la correspondance de Dimitrios Kidonis, son ami. Bon. Il demeure dans la capitale, mais la vie politique, qui est toujours aussi agitée, ne l'intéresse plus tellement. Il lui arrive de retourner à Thessalonique. On le sait en 1363, parce qu'on a plusieurs lettres de cette année. C'est une année funeste pour lui. Il fait un voyage pénible où il est malade. Bon, ça, c'est, il faut dire que les Byzantins avaient le mal de mer en général. Le théologue de Philadelphie lui-même explique aussi qu'il est malade quand il traverse la mer. Bon, il arrive, mais bon, il n'y avait pas que le mal de mer, puisque arrivé à Thessalonique, il tombe encore plus malade. Et surtout, il apprend que son père, donc on devine qu'il devait y aller parce que son père était à toute extrémité, son père est mort avant son arrivée. Bon. Son oncle Nil est mort quelques mois plus tôt. Sa mère est entrée au monastère. Et donc, il est, les circonstances sont tristes. En plus, il est très malade, puisqu'il dit qu'il devient aussi faible qu'un vieillard. Et puis, alors, il a un gros problème, c'est que la succession de son père n'est pas très facile. Il a des parents étrangers qui viennent de l'extérieur, exotènes. Alors, on se dit, là, oui, peut-être que son père était d'origine étrangère. Des parents étrangers qui viennent et qui lui disputent la succession des quelques terres que les Serbes avaient épargnées, parce que les Serbes s'étaient emparés d'une grande partie du territoire autour de Thessalonique. Donc il doit faire des procès, il doit avoir recours à des avocats, ça n'améliore pas son moral. Il rentre à Constantinople, il y trouve la peste, il a un ami qui est en train de mourir, le patriarche Callistos est mort aussi, et avant qu'on ne fasse revenir Philothée, il se passe quelques mois où on ne sait pas où on va. Ce qui fait que, ouf, la promotion de Philothée lui rend l'espérance. Et Kidonis, ce sont des lettres à Kidonis, ça montre vraiment la proximité entre les deux. C'est par ces lettres à Kidonis qu'on connaît tout ça. Kidonis compatit, il l'encourage à, effectivement, faire des procès pour se défendre, et puis surtout à rejoindre l'empereur Jean V, qui pourra l'aider à surmonter tout cela. Nicolas dit non, la vie politique, c'est terminé. On arrive en 1377, vous voyez, on va beaucoup plus vite pour la fin de sa vie parce qu'on connaît moins de choses. Commence pour Nicolas une nouvelle histoire d'amitié. On avait le trio Cabasilas, Kidonis, Cantacuzen. On aura le trio Cabasilas, Kidonis, Manuel II. Le Manuel II, paléologue, dont on a parlé beaucoup ces derniers temps. Et je disais à Beauzée, à peu près à la même époque que le pape Benoît XVI parlait à Ratisbonne, je disais que c'est probablement l'empereur byzantin le plus attachant, le plus aimé des byzantinistes. Alors, Manuel II, le jeune prince, qui est pris dans la tourmente des conflits entre son père Jean V et son frère Andronique IV, c'est une autre guerre civile, il professe envers Nicolas et Dimitrios une admiration enthousiaste. Et là, on a les lettres de Manuel II à Nicolas qui nous apprennent beaucoup de choses. En 1383, il est à Thessalonique, il est assiégé par les Turcs et les gens de Thessalonique ne veulent pas de lui. Donc, et il demande à Nicolas de lui envoyer quelques lettres d'encouragement. En 1387, il est exilé à Lesbos, et là, il nous envoie une lettre fleuve, un monument de littérature byzantine, où il demande son arbitrage. Il a eu une discussion philosophique avec ses compagnons sur savoir qui est le plus malheureux des hommes, quel est le plus grand malheur, et il demande l'arbitrage de Nicolas. Bon, en 1391, il est en Asie mineure. Hein, il a des controverses avec un musulman à cette époque-là. Il combat dans l'armée du Sultan. Il écrit à Nicolas, et au lieu de se plaindre, il le taquine. Il le taquine parce que Nicolas a refusé un poste de juge qu'on lui offrait. Nouvel indice que Nicolas était versé dans les affaires juridiques. Nicolas a refusé un poste de juge parce que vraiment il veut se retirer de la vie publique. Et Manuel II lui dit, là on reconnaît bien ta paresse habituelle. Bon, il le taquine. Mais Nicolas a mieux à faire que de s'impliquer dans les remous de l'histoire. Ses 40 années de retraite, il va les consacrer à la méditation et à l'écriture de ses grandes œuvres spirituelles, ses homélies sur la mère de Dieu, son explication de la divine liturgie et la vie en Christ. Et dans une de ses lettres, Manuel II dit que Nicolas Cabasilas fait jaillir les œuvres littéraires comme la source fait jaillir l'eau. Donc c'est vraiment une période de très grande production de Nicolas. Mais c'est l'époque où il approfondit sa pensée personnelle et il trouve sa vraie dimension spirituelle. Et il se situe par rapport aux deux courants qui marquent cette fin du XIVe siècle. Premier courant, c'est l'attirance de la théologie latine. Parce que Nicolas connaît bien ce courant d'attirance qu'on appelle latinophrone, parce que le chef de file de ce courant, c'est Dimitrios Kidonis, son ami d'enfance et jusqu'à sa mort. Avec son frère Prochoros, Dimitrios a traduit Augustin, Anselme, Thomas d'Aquin, et organisé autour de Jean VI. Jean VI aimait beaucoup rassembler des intellectuels pour faire des discussions. Et donc Dimitrios a lu ses traductions d'œuvres latines auprès, dans ses cercles. Donc Nicolas, qui devait fréquenter aussi ses cercles, puisque c'était Jean VI et Dimitrios qui donnait Nice, il n'y avait pas de raison qu'il n'y aille pas, il connaît très bien les questions dont débattaient les latins à son époque. Il leur emprunte ce qu'il trouve bon, selon sa méthode habituelle. Dans la vie en Christ, on trouve l'influence d'Augustin, surtout du De Beata Vita d'Augustin. On trouve l'influence d'Anselme dans sa réflexion sur la rédemption. Mais il s'en écarte dans tout ce qui n'est pas conforme à la tradition orthodoxe. C'est ainsi qu'il publiera la préface de son oncle Nil contre le Filioque, donc il s'affirme vraiment orthodoxe. Bon. Le second courant, c'est le courant hésychaste et palamite. Alors, on a vu qu'il refuse de s'impliquer dans la querelle. Mais à partir de ce courant, c'est-à-dire ni dans ce courant, ni contre ce courant, mais en utilisant dans ce courant ce qui lui correspond, il va élaborer sa propre synthèse spirituelle, sa propre conception de la sainteté. Parce que, autant que pour Palamas, pour Nicolas, la sainteté, c'est vraiment la chose importante. Mais pour Nicolas, la sainteté, bon, il dit pas la sainteté, il dit la perfection, teliotis en grec, ne peut s'affranchir ni de la culture profane, parce qu'on ne peut pas laisser les dons de Dieu en friche, ni de la foi. On a vu qu'il a écrit contre ceux qui pensent qu'on peut que la science profane est inutile, mais il a aussi écrit un autre traité, qui malheureusement est encore inédit, mais qu'il faudrait publier, qu'il est impossible d'être parfait, lisez d'être saint, par la seule sagesse profane, sans la foi. C'est-à-dire que la sainteté se situe pour lui dans un équilibre harmonieux entre la sagesse profane et la foi. Un équilibre qui n'est pas un juste milieu. Là, il ne faut surtout pas faire la confusion, parce que, autant que Palamas, Cabasilas plaide pour la perfection chrétienne. Et la perfection chrétienne, pour lui, ça va jusqu'à la déification. Simplement, son chemin est un peu différent de celui de Palamas. Pour Palamas, le chemin principal, c'est la prière. Pour Nicolas Cabasilas, le chemin principal, c'est la liturgie et en particulier les sacrements. Parce que, comme il le dit, ce qui compte, ce n'est pas de gagner une sainteté héroïque, mais c'est de recevoir la sainteté même du Christ. Hein, et c'est par les mystères liturgiques, le baptême, la chrismation, l'eucharistie, qu'on reçoit cette sainteté. Conséquence, les moines ne sont pas les seuls à pouvoir devenir saints. Il y avait une tendance à Byzance pour réserver la sainteté aux moines. Je dis à Byzance, mais en Occident, c'était pareil à la même époque. Bon, ils fassent leur temps à prier, donc ils ont plus de chances de devenir des saints. Non, répond Nicolas, parce que tout baptisé qui prend au sérieux son baptême, peut vivre la vie en Christ qui est la vie du Christ en nous. Et ce, quel que soit son état de vie, il donne comme exemple général, agriculteur, philosophe, artisan ou commerçant. Bon, et Nicolas écrit tout cela, mais il ne se contente pas d'écrire, il est un témoignage vivant de sa théologie personnelle. Ses œuvres recèlent un trésor, ce trésor c'est un trésor caché dans sa vie, une vie de discrétion. Il y a un des manuscrits de La vie en Christ qui porte comme titre, au lieu de La vie en Christ, La vie cachée en Christ, cryptoménie en grec. Et les 40 dernières années de Nicolas Cabasilas, c'est bien une vie cachée, puisqu'il n'intervient plus dans la vie publique, mais une vie cachée en Christ. Bon, il a dû mourir vers 1399, à peu près à la même époque que Dimitrios Kidonis, puisque aucun des deux ne fait allusion à la mort de son ami. Donc, vu leur lien très proche, celui qui est mort le dernier aurait mentionné la mort de son ami. En conclusion, donc, puisqu'il est mort, on va conclure. À l'issue de ce parcours, de cette vie qui est de mieux en mieux connue, mais je vous promets qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à trouver dans l'ensemble des sources de l'époque pour arriver à connaître sa vie, on ne peut qu'être frappé par l'impression d'équilibre qui s'en dégage. Un équilibre qui est le résultat d'un mélange très attachant de fragilité et de force. Fragilité parce que c'est quelqu'un d'ultra sensible. Ça, on, Nicolas ne fait pas mystère de ses sentiments, on le sent quand on lit ses lettres, en particulier ses lettres à son père. On sent qu'il souffre d'être séparé de son père. Bon, il y a de la part de rhétorique, mais en dessous de la rhétorique, on sent vraiment toute sa sensibilité. Quand il pense que ses amis de Thessalonique l'oublient, ne pensent pas à lui, ça le fait souffrir. Et avec l'âge, cette sensibilité ne s'émousse pas du tout. Au contraire, on sent dans ses lettres de la période difficile de la mort de son père, on sent qu'il est proche de la dépression. Donc une grande fragilité liée à une grande sensibilité, mais une force aussi. Une force, la force de la fidélité d'abord. Parce que fidélité à soi-même, ça c'est évident. Fidélité à ses amis, quelle que soit leur position dans l'échiquier politique ou religieux. Fidélité à son empereur, Jean VI. Fidélité à son Église. Il est très très attaché à l'Église orthodoxe. Et une fidélité qui ne se laisse pas émousser par les différents politiques ou religieux. Dimitrios Kidonis reste son ami cher, y compris quand Dimitrios Kidonis quitte l'Église orthodoxe pour se faire catholique, y compris quand Dimitrios Kidonis devient le ministre de Jean V, alors que pour Nicolas, si c'est plus Jean VI, il ne s'engage plus, et Dimitrios Kidonis qui se fait le propagandiste de la théologie latine et le chef du mouvement latinophrone. Dimitrios reste son ami Dimitrios. Bon. Et il est fort aussi par cette volonté d'être médiateur, de réconcilier les contraires, de refuser les ruptures, quels que soient les aléas de la vie politique, un refus des extrêmes et des polémiques. Ça ne lui paraît pas du tout impossible d'être à l'ami de Grégoire Palamas et de Dimitrios Kidonis. Pas impossible de servir Jean VI et de faire l'éloge d'Anne, la mère de Jean V, en pleine guerre civile, de fréquenter les monastères et de promouvoir la sainteté laïque, de défendre les hésychastes contre les inepties grégoras et de plaider pour la culture humaniste. Vous voyez, c'est l'homme du « et » non pas du « ou ». Si Kabasilas est connu donc surtout comme théologien et comme auteur spirituel, on ne doit pas oublier qu'il fut aussi un homme de son temps, un chrétien du XIVe siècle byzantin, aux prises avec une histoire dramatique, et qu'il a su trouver une façon de vivre cette histoire dans le monde sans être du monde, en totale harmonie avec ce qu'il écrivait, et j'oserais dire que sa vie est à la hauteur de son œuvre. Voilà.